Bonjour ou rebonjour à chacun, chacune. Bonjour à celles et ceux qui nous suivent à distance. Pedro, si tu mets la première diapo. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, auront d'autres traductions. Vous connaissez sans doute bien ce passage, pour l'avoir déjà lu et étudié. Passage qui exprime bien toute la tension avec laquelle nous sommes en permanence confrontés. Être dans le monde sans être du monde, avoir une bonne influence dans le monde ou sur le monde, tout en ne subissant pas la mauvaise influence du monde. Tel est le défi du chrétien, tel est le défi de l'Église. Facile ou pas facile? Je vous propose trois parties à ce sujet. La société de l'ego, la société de la communion, et une troisième petite partie sur la communion concrète. Alors, si ça marche. Si elle marche, on passe. Si tu mets la 2, Pedro. Voilà. Semaine dernière, j'ai assisté à une journée de conférence. Et dans l'une d'entre elles, Étienne Lhermeneau, l'ancien président du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, auquel fait partie notre union d'église, mentionnait certaines transformations profondes dans nos sociétés occidentales, avec notamment l'évolution très marquée ces derniers temps vers un référentiel individuel, couplé avec la puissance de l'opinion publique, et avec le recul particulier et la vue d'ensemble qu'il peut avoir, lui, du monde évangélique, il remarquait combien nos communautés chrétiennes étaient en la matière plus perméables aux influences de la société qu'on ne le croit, ou même qu'on ne le voudrait, et en particulier à l'heure de l'individualisme exacerbé, oui, la perméabilité des églises au monde lui semblait évidente, pour ce qui concerne ce qu'il a appelé la société de l'ego. La société de l'ego. Alors, pas la célèbre petite marque de petites briques en plastique avec lesquelles on a tous fait de remarquables constructions. Non, l'ego, l'apostrophe, ego, le moi. L'ego, quelque chose qui vous, comme moi, souvent inconsciemment, plus ou moins, nous fait filtrer, évaluer, apprécier, ou déprécier toute chose, tout ce que nous pouvons voir, vivre, expérimenter, de nos jours, tout ou presque, passe par le crible de l'ego. J'aime, j'aime pas, ça me convient pas, ça me parle, ça m'a pas parlé, ça me nourrit, ça ne me nourrit pas, ça me correspond, ça ne me correspond pas, ça me fait du bien. Donc c'était bien. C'était bof parce que ça ne m'a pas rejoint. Sujet complexe, quelque chose qui lui faisait aussi dire que la religion est ramenée au niveau des loisirs avec lequel elle entre en concurrence. Et un autre orateur de la conférence disait aussi: il y a quelques décennies, je choisissais une église parce que ce qui était dit était juste, orthodoxie de ce qui était enseigné. Aujourd'hui, je choisis une église parce qu'elle me fait du bien. Simple et anodine différence ou évolution de fond? Est-ce grave, docteur? Voilà le docteur. Je nous laisserai y réfléchir. Remarqué de façon plus large dans les médias, de plus en plus pour parler d'une problématique générale, pour évoquer un événement global, qu'est-ce qui est fait? On interroge quelques personnes en particulier. Comment la famille untel vit la chose? Comment monsieur machin perçoit cela? Quel est l'avis de madame Truc sur ceci ou cela? J'imagine que les gens demandent cela pour s'intéresser au sujet. Pas de mal en soi, mais tant pis pour l'extrapolation ou la généralisation à partir de quelques cas particuliers d'expériences personnelles. Et donc tant pis pour le manque d'objectivité. De fait, de plus en plus, la subjectivité, ce qui est propre à un sujet déterminé, s'impose. Le relativisme s'installe. Et cela procède, je crois, de cette société de l'ego, où dans une large mesure, si je ne suis pas personnellement concerné, ça ne concerne pas. L'expérience personnelle prime donc, mon expérience personnelle prime. Sujet complexe, hein, car en tant que chrétien, notre aspiration profonde et sincère, j'en suis sûr, et comme pour Jean-Baptiste parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais nous voulons aussi souvent, influencés par la culture ambiante, sans même parfois nous en rendre compte, nourrir et satisfaire notre moi. Je force sans doute un quelque peu le trait en le disant ainsi, mais notez quand même que je ne dis pas que du tout que l'expérience personnelle est mauvaise. Au contraire, c'est une bonne chose. Et je ne peux qu'encourager dans l'Église le partage de témoignages, le partage de nos expériences personnelles, de soi ou d'autres, parce que c'est vraiment un encouragement, c'est un sujet de joie pour les autres, ou un sujet d'intercession aussi, quand le partage concerne une difficulté. Mais il y a par contre problème, en lien avec la société de l'ego, si mon jugement, si mon analyse ne se fait que par le filtre de l'expérience personnelle. Notez qu'il ne s'agit pas non plus exactement d'un problème d'égoïsme ou d'égocentrisme à proprement parler, car il y a dans la société, et a fortiori dans l'Église, et un grand merci d'ailleurs à vous tous, de la générosité, de l'altruisme, du service, de l'engagement volontaire, et c'est super. Oui, bien heureusement, cela existe encore largement. Mais je le redis, le problème, c'est plus un quelque chose de plus subtil qui fait de l'ego la norme de référence. Le référentiel. Oui, le problème, c'est que l'ego est devenu référentiel. Il est une référence qui, de relative, est souvent devenue absolue. Le moi, une référence qui, de relative, est souvent devenue absolue. Quelques exemples. La fidélité de Dieu ou sa sainteté se mesure-t-elle à ce que j'en ressens ? La grâce de Dieu et son pardon se limitent-ils à ce que j'ai pu en vivre ? La toute-puissance divine et sa souveraineté se réduisent-elles à ce que j'en perçois ? Évidemment, nous savons que non, bien heureusement que non. Mais la société de l'ego tend à nous le faire croire, tend à réduire Dieu dans son être et dans son action à notre mesure, notre petite mesure. L'ennemi de nos âmes, Satan, voudrait aussi nous le faire croire, car il souhaite aussi, plus que tout autre, réduire Dieu dans son être et dans son action, et prendre sa place. On s'en est sans doute tous d'accord, mais qu'en est-il de notre appréciation de l'Église, du culte, de la louange, de la prédication, des groupes de maison ? Et mon appréciation de tel frère ou de telle sœur. Mon jugement est-il cantonné au bien que cela me fait ? La société de l'ego. Faut-il vraiment s'en alarmer ? Je note juste l'évolution et je laisserai chacun se faire une opinion. Et j'assume d'ailleurs là le fait que je sollicite votre ego et votre filtre pour en juger. Car oui, l'ego, la référence seulement relative, est cependant importante aussi. Il ne s'agit évidemment pas et absolument pas de défendre un quelconque excès inverse, de l'écrasement ou de la négation de l'individu, pas du tout. Et il y a d'ailleurs pu souvent avoir ce travers-là dans le passé et l'histoire de l'Église au sens large. Alors, je ne suis pas du tout un nostalgique du bon vieux temps. Il y avait bien d'autres faux-semblants, bien d'autres biais, bien d'autres travers avant aussi. la société de l'ego. Y a-t-il un antidote à cela ? Comment quelque peu contrecarrer, si besoin est, cette influence du monde et de sa logique pour nous-mêmes et pour l'Église ? C'est sûr que déjà en prendre conscience, un peu, ou mieux, beaucoup, aidera certainement à notre vigilance. Mais y a-t-il carrément un antidote ? J'avoue que je ne sais pas si on peut poser les choses en ces termes, mais j'ai à cœur de nous amener sur un autre terrain et d'opposer à la société de l'ego la société de la communion. La société de la communion, c'est le plan de Dieu. La société de la communion, c'est l'Église, le peuple de Dieu en communion avec lui et en communion les uns avec les autres. Et où tout ego, sans disparaître, trouvera assurément et simplement, j'espère, je rêve, j'y aspire, sa juste place. Sa juste place, ni plus, ni moins. Car Dieu veut assurément l'épanouissement de l'individu, il veut notre épanouissement personnel, c'est sûr. Mais Dieu le veut dans une inversion des priorités et des logiques par rapport à celles du monde. Et la communion est certainement un des éléments fondamentaux que Dieu nous offre, je crois. Non, je ne crois pas, j'en suis sûr. Communion, un mot grec un peu barbare, koinonia, dont la racine évoque ce qui est commun à plusieurs personnes. La communion, c'est la relation dans laquelle plusieurs parties ont quelque chose en commun et sont ainsi en association, dit un dictionnaire. Et bibliquement parlant, on pourrait même mettre des mots plus forts, en alliance, en unité, bref, en communion, quoi. Et je propose de lire quelques versets sélectionnés dans le Nouveau Testament à ce sujet. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le point de départ. Suite à l'appel de Dieu, l'invitation à saisir sa grâce que nous avons acceptée, nous sommes en communion avec Jésus-Christ. En communion avec Jésus-Christ. Une relation nouvelle s'ouvre à nous. Une révolution, celle de la communion avec rien de moins que le Seigneur et Sauveur. De Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. C'est certes une salutation finale à la fin d'une des lettres de Paul, salutation trinitaire, mais en même temps une prière pour qui entendrait ou lirait ces paroles de l'apôtre, pour qu'il ou elle saisisse cette offre extraordinaire, et aussi en même temps pour qui est déjà en communion avec Christ, l'affirmation d'être également dans la communion de l'Esprit-Saint. Dans la communion de l'Esprit-Saint. Les deux sont bien sûr intimement liés, car il ne peut y avoir l'un sans l'autre. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Pour boucler la boucle, on a parlé de communion avec le Fils et de communion avec le Saint-Esprit. Cela ne peut pas non plus être sans aussi la communion avec le Père. La communion avec le Père. Dieu le Père, notre Père. Ce qui engendre alors aussi une autre communion, celle entre et avec les personnes qui sont en communion avec Dieu. La communion fraternelle entre frères et sœurs. La communion fraternelle entre frères et sœurs. C'est ce que soulignent d'autres versets qu'on connaît sans doute. Acte 2, 42, par exemple, que je mets là. Ils, c'est-à-dire les premiers disciples de Jérusalem, au nombre de 3000, déjà ce premier jour de Pentecôte, étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion, la plupart des traductions mettent à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. En contrepoint de l'ego comme référence, Dieu nous propose la communion comme référence. La communion comme référence. Et donc lui-même comme référence. Dieu lui-même comme référence. Car bien sûr, nous le savons, l'exemple parfait de communion, c'est Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes divines en parfaite communion au point de n'être qu'un, sans pour autant disparition ou dissolution de chacun. Merveilleuse unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelque chose à la fois inaccessible, et à la base totalement inaccessible pour nous, et en même temps accessible, accessible, les versets que nous venons de lire nous le disent, car offert, et voulu par Dieu pour nous, Dieu lui-même l'affirme. L'avons-nous saisi ? L'avons-nous saisi ? Et l'apôtre Jean, sans utiliser le terme communion, nous rapporte des paroles de Jésus qui disent la même chose. C'est un extrait de la prière sacerdotale en Jean 17. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je viens à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, pour qu'il soit un comme nous. Qu'il soit un comme nous. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Toujours bel et bien ce combat d'influence évoqué tout au début. Ce n'est pas seulement pour, je passe au verset 20, ce n'est pas seulement pour ceci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est moi, toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné ta gloire, que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Notre unité, union, communion, comme preuve que Christ est venu de Dieu. Notre communion comme preuve de l'amour de Dieu. Et notons que Jésus ne parle pas seulement dans sa prière de juste l'élite chrétienne que seraient les premiers apôtres, mais bel et bien de tout chrétien, tous ceux qui mettront leur foi en lui, dit le texte. Je ne sais pas si on se sent toujours à la hauteur. Encore le filtre de notre ego qui, pour le coup, n'est peut-être pas toujours que subjectif. Mais en tout cas, Jésus le dit. Oui, tout chrétien bénéficie d'une unité, d'une communion d'exception en Dieu, avec Dieu et avec les frères et les sœurs par la présence de Christ. C'est une affirmation de Dieu dans la Bible. Avouez qu'on est quand même là, et gloire et reconnaissance à Dieu, largement au-dessus du simple quelque chose en commun. De la définition du mot communion, non ? Dieu en commun. Nous avons Dieu en commun. Rien de moins. Ouais, bof, Dieu. Banal. En plus, la société de l'ego, il y a la société de blasé aussi, non ? Extraordinaire ! Nous avons Dieu en commun. Dieu en commun. Moi, ça m'émerveille d'y penser. Ainsi est advenue par la volonté de Dieu la communauté des croyants, l'Église. On est aussi assez loin de notre ego comme référence première. Notre vrai épanouissement, notre accomplissement, pour reprendre du vocabulaire de développement personnel, découle, sans être cependant notre objectif premier, découle de cette communion divine. Voilà de bien beaux versets qu'il exprime, qu'il affirme. Dieu nous a offert et Christ a rendu possible la communion. La communion avec lui, avec Dieu, entre nous. À l'opposé de réduire Dieu, comme le fait la société de l'ego, Dieu nous agrandit dans la société de la communion, si on peut dire les choses comme ça. À l'opposé de réduire Dieu, comme le fait la société de l'ego, Dieu nous agrandit dans la société de la communion. Moi, j'aime bien l'expression, en tout cas. Dieu nous agrandit. Et surtout, la réalité de cette communion dépend de Dieu, dépend de l'œuvre parfaite de Christ, et non pas de moi, pas de ma fragilité et de mes émotions fluctuantes. Frédéric, on ne s'était pas concerté, l'a un peu évoqué dans la présidence. Cette communion ne dépend donc pas de la perception que j'en ai à tel ou à tel instant. Et ça, tant mieux. Quelques exemples concrets que j'ai faits pour certains volontiers un peu provocateurs. Je les ai exprimés comme des affirmations, mais ils sont aussi peut-être des questions que nous pouvons nous poser à Dieu, pour qu'il nous donne sa paix en la matière. Je suis dans la communion parfaite de Christ chaque fois que je lui demande pardon pour mes écarts, mes péchés, car son pardon est immédiat. Je suis dans la communion parfaite du Père, même si la prédication de François est un peu à côté de la plaque et je trouve qu'elle ne me nourrit pas. Je suis dans la communion du Saint-Esprit, même si mon ressenti lors de la louange n'a pas été vraiment de m'être senti sur un nuage. Je suis en communion avec chacun et chacune de mes frères et sœurs de l'Assemblée, par l'œuvre parfaite de Christ, même si nous avons une opinion différente sur tel ou tel sujet. Je suis dans la communion avec Dieu, même si je suis triste ou déboussolé par l'épreuve, la souffrance, voire le doute. Le péché peut perturber la communion, et il la perturbe malheureusement, c'est sûr. Toutefois, sans pouvoir la rompre une fois que nous sommes sauvés. Mais dans tous les autres cas, sujet complexe, car parfois difficile pour nous de faire la part des choses, y compris quand l'Église n'est pas à la hauteur, quand nos réunions ne sont pas aussi enthousiasmantes pour chacun qu'on le souhaiterait, mais c'est un autre sujet, on pourra en discuter par ailleurs. Dans les autres cas que le péché, c'est ma perception, mon ressenti de la communion qui est en fait perturbée. En tout cas, pas la communion en Christ elle-même. Et notez bien, je veux le souligner quand même, que je dis oui aux ressentis, hein, oui aux émotions. Il ne s'agit pas de les bannir ou dire qu'elles seraient mauvaises. Jésus a eu des émotions. Il a exprimé son ressenti. La Bible nous le restitue bien. Et concernant Job aussi, ou David, ou les différents prophètes, pour n'en citer que quelques-uns, on doit et on peut être vrai aussi en matière de sentiments, d'émotions, de ressentis, y compris dans l'Église, surtout dans l'Église peut-être, grâce à notre liberté et communion en Christ, nous pouvons les exprimer, les partager. C'est bien. Toujours avec les facettes du fruit de l'Esprit mises en œuvre, hein, bien sûr, pour les dire et les recevoir comme il le faut. Mais vous l'avez compris, j'insiste quelque peu, tout ne se juge pas. Tout ne se jauge pas à la mesure de mon ressenti. Et heureusement. Heureusement, car des fois, nous faisons tellement le yo-yo émotionnel. Si la communion offerte par Dieu faisait de même, ça serait terrible. Pire que les montagnes russes. Ah, super, je suis dans la communion de Dieu. Ah, ben non. Ah, ben oui. Ah, ben non. Nous le sommes, même si des fois, nous avons du mal à le percevoir. Oui, heureusement, pas de yo-yo dans la fidélité et l'amour de Dieu. Pas de variation non plus dans sa communion, même si ma perception peut se troubler. La communion n'est pas juste un ressenti, même si le ressenti peut être un élément de la communion. Et je dis ouf, tant mieux. Car ainsi, la société de la communion qu'est l'Église ne vole pas en éclats toutes les 5 minutes, selon nos fluctuations personnelles. Mais aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à plus de constance. Donne-nous de mieux vivre cette communion. La prière est évidemment légitime. Et surtout, transforme-nous pour que nous ne péchions plus, que rien ne vienne plus troubler cette communion. Et merci pour ton pardon. En conclusion, je mentionne encore un aspect. Ça peut bien passer. Mais la 9, Pedro, voilà. Toujours un petit temps de latence. Encore un aspect surprenant, mais très concret de la communion, de la société de la communion, qu'est l'Église. Et je cite 2 versets. Car la Macédoine et l'Achaïe, et Paul parle là des chrétiens de ces régions géographiques de Grèce ou au nord de la Grèce, la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte de solidarité en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Les chrétiens de Jérusalem, glorifiez Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous reconnaissez publiquement la bonne nouvelle du Christ et pour la générosité de votre solidarité avec eux et avec tous. Quel rapport avec la communion ? Quel rapport avec la communion ? C'est vrai que quand on évoque communion avec Dieu, rendez-vous compte, hein, l'intimité avec l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, quand on jouit, quand on se réjouit de la communion en Jésus, l'intimité du Seigneur, et de la communion du Saint-Esprit, peut-être que l'on plane un petit peu dans les hautes sphères de la spiritualité. Et qu'à contrario, quand on évoque communion fraternelle, on redescend un peu plus sur terre. Sachez que ce qui est traduit par collecte de solidarité ou solidarité dans ces versets, c'est le même mot grec que celui de communion dans les versets lus tout à l'heure. Communion avec Dieu, communion avec le Père, communion fraternelle, solidarité. Différentes facettes d'un même mot, intéressant, hein ? Koinonia, communion, est vraiment un mot amphibie, il passe partout, allant d'intimité avec Dieu jusqu'à entraide fraternelle concrète, solidarité. Cette communion, effectivement, ne peut pas se vivre de façon abstraite ou juste au perché, l'ego exalté. Ce que Dieu nous a offert n'est communion dans son plein sens, dans sa pleine dimension, que si elle inclut aussi le pratico-pratique. Le bassement, j'insiste un peu sur ce mot exprès, le bassement matériel, la solidarité, l'entraide, pour les frères et les sœurs, premièrement, et alentour aussi, afin que le monde croie que Dieu a envoyé Jésus-Christ, pour reprendre les termes de la prière de Jésus en Jean 7, 17. Pas juste une bonne action ? De la communion. Pas juste une bonne action de la communion et pas juste de la communion, un témoignage concret. Je m'arrêterai là. Moi, en tout cas, je préfère la société de la communion plutôt que la société de l'ego. À vous ? Ouais, bof. Mesurons tout à la mesure de Dieu, mesurons tout à la mesure de Christ, laissons-le nous agrandir, nous élargir, et ne le réduisons pas à l'aune de notre petit ego. Merci à Dieu de cette communion qu'il nous offre avec lui. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'en faire partie. Gloire à Christ qui seul l'a rendu possible. Et je redis cette conclusion de l'Épître aux Corinthiens pour chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année. que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. Amen. Quelques moments de réflexion avant que je ne prie. Seigneur, merci. Oui, d'abord merci parce qu'effectivement, tu nous as offert cette communion. Communion qui nous était inaccessible à cause de notre péché qui nous séparait de toi. Mais communion que, en Jésus-Christ, tu as rendue possible. Nous ne pouvons que dire merci en ayant goûté cette communion. Oui, merci pour cette communion avec toi. Toi, Dieu le Père, toi, Dieu le Fils, toi, Dieu le Saint-Esprit, nous sommes dans communion avec toi, dans une intimité extraordinaire, celle pour laquelle tu avais voulu que toute l'humanité soit, mais malheureusement, le péché est venu gâcher cela. Mais merci, Seigneur, pour cette, entre guillemets, seconde chance que tu nous as offerte, cette nouvelle vie que tu nous as donnée, cette communion avec toi. Il y a aussi une communion qui n'est pas que exclusive, un peu égoïste de moi avec toi, mais elle se partage aussi avec de nombreux frères et sœurs. Quel privilège là encore, quel privilège. Seigneur, aide-moi à mesurer cela à la mesure de qui tu es, toi ce Dieu sans limite extraordinaire, et non pas à ma petite mesure ou à la petite mesure du frère ou de la sœur et de ses défauts. Merci Seigneur parce que effectivement nous pouvons vivre et mesurer les choses dans une dimension éternelle, infinie, extraordinaire, et pas juste à la dimension de notre ego. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où influencé par la société, effectivement j'ai plutôt tendance à tout analyser à travers ce filtre de l'ego, ce filtre de du moi, comment ça me correspond ou pas, etc. Seigneur, oui, je veux élargir mes perspectives, je veux élargir ma logique, je veux vivre avec ta logique à toi. Merci de nous aider, Seigneur, individuellement, nous aider en Église, à pouvoir toujours davantage vivre cela. Que toute fluctuation de nos ressentis, de nos émotions, ne cache pas toute la grandeur de la communion que tu nous offres, que tu nous donnes et que nous pouvons vivre. Oui, nous voulons vivre cela, Seigneur, dans notre petite communauté ici, et prions. Nous prions aussi pour que les autres communautés vivent cela, pour que les chrétiens à travers le monde aient cette liberté de le vivre également les uns avec les autres, par ta grâce. Merci, Seigneur, oui, pour cela, et que ça puisse se traduire aussi de façon toute concrète. Une communion, effectivement, dans la solidarité, une communion dans l'entraide, notamment. Merci, parce que c'est aussi communion de ta part. Je te rends gloire, Seigneur, je te remercie pour cette vie extraordinaire dont tu nous as ouvert la porte, que tu permets. Donne-nous d'y entrer toujours plus pleinement, Seigneur, et que le péché ne nous en écarte pas. Et si c'est le cas des fois, ben, pardon. Pardon et merci pour ton pardon sans cesse renouvelé. À toi toute la gloire, Seigneur, en Jésus-Christ, pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu fais pour nous. Amen.